Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors vous le savez, cette semaine, Franck Ferrand nous propose de réécouter quelques numéros d'Au cœur de l'histoire parmi ceux qui vous ont plu. Alors bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Notre histoire d'aujourd'hui est dramatique à souhait. C'est une histoire où l'inconséquence, l'égoïsme, le préjugé ont eu des résultats affreux. Je vais vous raconter le destin, un destin terrible, d'une partie des naufragés de la frégate La Méduse. Ces naufragés qui ont dérivé sur la mer déserte à bord, vous savez, de leur pitoyable radeau.
Et d'ailleurs, le grand peintre Géricault en a tiré un chef-d'œuvre.
Oui, une grande toile qui a fait sensation au salon de 1819, avant de devenir une des peintures incontournables du Louvre. Ce que nous allons voir ensemble, en compagnie de mon invité, Éric Amptaz, c'est la réalité qui se cache derrière la légende, triste légende en l'occurrence. Nous partons tout de suite pour l'Atlantique Sud à l'été 1816, c'est-à-dire au tout début du règne de Louis XVIII et de la restauration des Bourbons.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En ce début d'été 1816, à la barre de la frégate La Méduse, monsieur de Chaumaret croise au large de Madère. En fait, il avait prévu d'y faire une escale, le temps de ravitailler, mais il s'est un peu trompé, il a manqué l'île et du coup, il a mis le cap sur le pic de Teide en espérant ne pas manquer Tenerife. Cette légèreté, évidemment, nous fait sourire. J'ai envie de dire, rions tant qu'il est encore temps. 4 navires sont aux ordres de Chaumaret, l'excellente frégate La Méduse donc, la corvette L'Écho qui vogue assez bien également, et puis un brick un peu lourd, l'Argus, et une flûte carrément lente, la Loire. C'est cette Loire qui retarde le convoi, du coup le commandant a décidé de distancer les deux derniers navires. Où il plastronne le bon du roi de Chaumaret. Il s'imagine au sommet de la Royale avec sa noble ascendance et ses belles médailles. Dommage qu'il n'ait pas navigué depuis un quart de siècle. Dommage qu'il ne sache plus interpréter une carte, que ses officiers le détestent et qu'il aille jusqu'à autoriser certains de ses passagers à donner à sa place des ordres à l'équipage. La mission de Chaumaret est pourtant prestigieuse. Il s'agit pour lui de mener à bon port des colons qui sont envoyés par Louis XVIII prendre possession du Sénégal. Le Sénégal qui, à l'époque, vient d'être rétrocédé à la France à l'issue des guerres napoléoniennes, etc. Le seul vrai danger du voyage réside dans les caprices de la côte mauritanienne et notamment dans le fameux banc d'Arguin. C'est un gigantesque banc de sable à fleur d'eau que les cartes de l'époque indiquent, il faut dire, assez mal. Le seul moyen d'éviter ce banc de sable à coup sûr, c'est de prendre très au large, sitôt repéré le cap blanc, et de réduire l'allure, évidemment, tout en sondant le plus fréquemment possible. Tout ça, Chaumaret le sait, bien entendu. Et le 1er juillet, à la tombée du jour, il ordonne de virer au sud-ouest dès qu'il aperçoit le cap blanc. Enfin, ce qu'il a identifié comme tel, parce qu'en fait, ça n'est jamais qu'un gros nuage à l'horizon, ce qu'il a vu. En réalité, la frégate et la corvette dans son sillage se trouvent encore bien plus au nord que ne le pense le capitaine. Premier sondage à 22h, 45 brasses de profondeur. Bon, jusque-là, tout va bien, comme dit l'expression. À quelques encablures de la Méduse, l'Écho, donc le deuxième navire, se méfie tout de même. Et en pleine nuit, on voit la corvette qui s'éloigne à tribord. Elle envoie même des fusées pour mettre le commandant en garde. Peine perdue. Deuxième sondage, on est à 2h du matin, 50 brasses. Et cette fois, le promontoire là-bas à bâbord, ce promontoire qui se devine dans la nuit, c'est bien le Cap Blanc, le vrai. À 4h, 60 brasses. À 6h, 80 brasses. Oh, c'est bon, pense le commandant, le banc d'Arguin est derrière nous. Allez, cap au sud. Et les 14h, quand un jeune enseigne, quand même très inquiet de la couleur trop claire de l'eau, prend sur lui de sonder encore une fois, alerte, Le fond n'est plus qu'à 16 brasses. Chaumaret est averti, évidemment, nouveau sondage, 6 brasses. Là, le commandant s'affole, à tribord toutes. Trop tard, une grosse secousse, puis deux autres plus amorties. La quille de la frégate vient de heurter le sable. La méduse ne bouge plus du tout.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck, dans son récit sur Europe 1, nous relate un fait divers tragique, le naufrage de la Méduse.
Nous sommes donc le 2 juillet 1816 au large des côtes mauritaniennes. La frégate La Méduse vient d'échouer avec à bord près de 400 personnes. Non seulement elle s'est immobilisée contre un haut fond, mais elle l'a fait à marée haute. Ce qui veut dire que bientôt la mer va descendre et que le navire ne sera plus porté par l'eau. En temps normal, l'équipage devrait, dans des circonstances comme celle-ci, faire bloc autour de son commandant. Seulement, la politique s'en mêle. Rappelez-vous, on est au tout début de la restauration des Bourbons. Quelques mois seulement après la chute de Napoléon et les jeunes officiers de la Méduse, qui ont presque tous été nommés sous la Révolution, détestent le commandant de Chaumaret, qu'ils voient comme un aristocrate de vieille école. Il faut dire que Chaumaret ne manque pas d'arrogance. On essaie tout de même d'alléger le navire et dans un premier temps, on met à l'eau toutes les embarcations. Seulement voilà, on découvre qu'elles sont dans un état déplorable, qu'elles prennent l'eau. Alors, on démonte ce qu'on peut, des mâts, des vergues, des espars, on amarre tout ça le long du vaisseau. Pendant ce temps, la marée descend. À mesure que l'eau baisse, la méduse se balance un peu plus sur sa quille, la coque paraît tenir bon et l'on ne perd pas tout espoir. Dès la prochaine marée, on devrait pouvoir mener à bien l'évacuation des passagers. Alors, qui sont-ils ces passagers? Il y a les marins, bien entendu, mais aussi de nombreux hommes de troupe, des fantassins sous les ordres du colonel Schmalz, et des civils, des commerçants, des fonctionnaires, bref, la population d'une petite colonie, en tout 392 âmes. Dans la nuit, le vent qui se lève secoue la frégate et la repousse un peu plus haut sur le sable. On déleste le bâtiment de ses pièces d'artillerie et sous les ordres de Schmalz, on se met à fabriquer un grand radeau de 20 mètres sur 7 sur lesquels sont déchargées les marchandises les plus lourdes. Voyez quelle est la première destination de ce radeau. Évidemment, c'est lui qui, chargé bien autrement, dans quelques jours, va devenir célèbre. Au petit matin, à marée haute, les opérations de désenchouage sont lancées, on jette l'ancre le plus loin possible, on vire les cabestans à force d'hommes, la frégate vacille, elle se met à pivoter, le nez vers le large. Ah quand même, on parvient à la faire bouger de 200 mètres, tout n'est pas perdu. Mais avec le soir, le gros temps revient, des vagues assez hautes balaient le navire, et cette fois la quille se casse et la carène commence à faire haut. Il va falloir évacuer dès l'aube. Il faut que vous sachiez que tout de suite on a constitué en secret une liste des personnes qui seront prises à bord des canots de sauvetage, en commençant par le canot du commandant. Le moment venu, seules 17 personnes vont décider de rester sur l'épave. La répartition des autres se fait en fonction de la liste. 27 personnes triées sur le volet vont monter avec le commandant, qui contre tous les principes abandonne donc son bâtiment le premier. Il y a 3 autres canots de sauvetage, plus une grosse chaloupe dans laquelle on fait monter des sous-officiers, des gens encore présentables. Ils sont 88, ils sont là à touche-touche. Seulement, il reste encore près de 160 personnes à évacuer, essentiellement des hommes de troupe, des matelots, du petit personnel, dont une cantinière. Ceux-là, on les fait donc monter sur le radeau. Inutile de vous dire qu'ils protestent et qu'il va falloir, pour plus de sûreté, confisquer aux soldats leurs fusils. Dans l'urgence, on finit quand même par entasser tout le monde sur la machine, comme on l'appelle tout de suite. Or, ce plancher s'enfonce à mesure qu'on le charge. Les gens ont bientôt de l'eau jusqu'aux genoux. Pour convaincre les plus récalcitrants, on leur a promis que toutes les embarcations seraient reliées par des filins et que donc la machine serait remorquée en bout de fil. Oui, mais voilà, la grosse chaloupe en forte surcharge est quasiment impossible à manœuvrer. Or, elle dérive dangereusement vers le milieu de la remorque. Elle risque maintenant de la couper entre le deuxième et le troisième canot. Un des lieutenants qui commande cette chaloupe craint que ça ne fasse couler le petit navire. Il crie pour que les gens du troisième canot laissent aller le filin. Et ça, c'est une méprise fatale parce qu'à bord des autres canots, on pense que c'est un ordre général. On lâche toutes les cordes, à commencer par celle qui, en queue de remorque, retenait le grand radeau.
extrait sur Europe 1 du vaisseau fantôme composé par Richard Wagner. Franck Ferrand vous relate aujourd'hui les naufragés de la Méduse. A tout de suite sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en 1816 sur Europe 1, au cœur du naufrage de la Méduse, Franck.
Alors Julia, le filin qui amarrait le grand radeau de queue à la file des canots a donc été lâché. Vous imaginez qu'à bord de la machine, c'est un seul cri d'indignation. Ils ont lâché la corde, ils abandonnent le radeau. Le canot de tête, celui de monsieur de Chaumaret, fait alors demi-tour. Il s'approche pour constater la situation. On est là, on hésite, on réfléchit. Et puis l'air de rien, on s'éloigne vers la côte avec les autres, laissant les 157 naufragés du radeau dériver vers le large. Sur la machine, les gens n'ont même pas la place de s'asseoir, en tout cas pas tous. Ils doivent rester les uns collés contre les autres, même agrippés entre eux pour ne pas tomber. Ce plancher glissant sans quille, qui épouse l'angle des vagues, vous imaginez comme il est confortable. Il n'y a pas de bastingage là, et nombreux sont ceux qui, évidemment, tout de suite tombent à l'eau et se noient. Monsieur de Chaumaret, pendant ce temps-là, n'est pas serré, lui, dans son canot avec ses invités. Il a choisi les meilleurs rameurs pour l'accompagner. Il ne perd pas de vue le canot du colonel Schmalz, qui marche dans son sillage. Il faudra quand même 4 jours d'une navigation, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est exténuante, pour atteindre le port de Saint-Louis du Sénégal et aborder la corvette L'Écho, qui, elle, est tranquillement à quai depuis 2 jours. Le brick L'Argus les aura aussi devancés. Plus que 136 âmes sur la machine. La première nuit a été vraiment éprouvante. À la tombée du jour, un certain nombre de soldats parmi les naufragés se sont mis dans la tête, on peut dire par désespoir, de s'aborder le radeau pour hâter une fin inéluctable, une sorte de suicide collectif si vous voulez. Les marins qui sont censés commander la machine s'y opposent et c'est le début d'un affrontement terrible. Coups de sabre, de hache, de machette qui pleuvent dans l'obscurité et quand le soleil se lève, la machine est jonchée de cadavres et de blessés. Après 5 jours de marche sur une côte désertique, de leur côté, là-bas, sans un seul point d'eau potable, les occupants des 2 premiers canots, à bout de force, brûlés par le soleil, plusieurs mourront d'insolation, ont été capturés par les indigènes d'une caravane maure. Ils ont été dévalisés de leurs maigres richesses, mais du moins, on leur a donné à boire. Après 2 jours d'une captivité sévère à l'intérieur des terres, ils sont récupérés par une autre caravane, sous la houlette d'un chef impressionnant. En fait, il s'agit d'un officier déguisé en maure qui était venu là pour leur porter secours. Les rescapés pleurent de joie. Sur la machine, plus que 75 âmes. Les rescapés ont toujours de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. La peau de leurs jambes, complètement détrempée, est devenue rouge violacée. Du moins, ça leur permet de s'hydrater, très indirectement. Et malgré le soleil tropical, ils souffrent donc peut-être un peu moins de la soif, mais c'est la faim qui les torture. Ils ont beau capturer des poissons volants, cette manne se révèle cruellement insuffisante. On ronge les cordes du navire. On mâche, j'ai trop lu de souvenirs du 17e, on mâche des morceaux de chapeau, et puis vers le 4e ou 5e jour, certains plus hardis ou moins dignes franchissent le pas. Après tout, les cadavres qui jonchent la machine sont comestibles. Alors il faut les imaginer sans doute tenaillés par la honte et par la peur de ce qu'ils vont faire, mais certains sortent leurs couteaux et ils transgressent le tabou. Vous me passerez évidemment, je n'ai pas envie d'aller plus loin et d'entrer dans les détails.
Thank you.
Europe 1 du vaisseau fantôme de Richard Wagner. On connaît la célèbre toile de Géricault, mais on oublie souvent le fait divers tragique dont elle s'inspire. Franck nous raconte le destin terrible d'une partie des naufragés de la frégate La Méduse, dérivant sur la mer déserte à bord de leur pitoyable radeau.
Plus que 40 âmes sur la machine, le stock de nourriture se renouvelle à une fréquence effrayante, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, c'est la boisson qui manque. Les rations de vin, le seul liquide potable à bord, sont diminuées. Sur le radeau, les plus valides se réunissent autour du petit mât. Ils tiennent le plus cynique des conseils, puisque de toute façon, les blessés n'ont aucune chance de s'en sortir. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Après tout, on abrégerait certaines souffrances, on prolongerait d'autant la survie des autres. Pendant ce temps, à Saint-Louis du Sénégal, M. de Chaumaret tente de chasser ses idées noires. Il a trouvé une teinture indigo du plus bel effet. Il va en envoyer un échantillon au ministre. Ah, au fait, le brick vient d'être envoyé dans la direction de l'épave. Sa mission explicite est de sauver 3 barils contenant 90 000 francs en pièces d'or et d'argent. Alors que les rescapés des canaux de la Méduse sont donc soignés à Saint-Louis du Sénégal, sur le radeau qui dérive en pleine mer, le nombre des survivants devient vraiment très faible. Dites-vous que bientôt ils ne sont plus que 20, 18, ils ne sont plus que 15 sur la machine, 15 sur 157. Ils ont surélevé le milieu du radeau pour ne plus marcher dans l'eau, moyennant quoi ils ont encore plus soif. Ils ont fabriqué une sorte de tente autour du mât où ils essaient de s'abriter un peu du soleil qui est très puissant. Au 12e jour de dérive, certains d'entre eux, avec des matériaux démontés à une extrémité, vont même fabriquer un radeau beaucoup plus petit et donc plus maniable. Ils espèrent ainsi regagner la côte. À peine mise à l'eau, cette chaloupe improvisée coule à pic. Et puis, le 13e jour, on est là donc le 17 juillet, les rescapés aperçoivent dans le creux d'une vague une petite voile à l'horizon. Ça les foudroie, d'un seul coup, leurs forces sont décuplées, on hurle, on rit. On détord les anneaux d'une barrique pour en faire des hampes au bout desquelles on agite des guenilles comme un drapeau. Seulement, le navire ne les repère pas. Il continue sur son air et il disparaît à l'horizon. Sur la machine, les survivants connaissent la pire des dépressions. Ils s'allongent en rang d'oignon sous leur bout de toile et là, ils attendent la mort. Le seul qui refuse de se coucher s'appelle Courtade, il est maître canonnier et 2 heures plus tard, c'est lui qui repère à nouveau la voilure du même vaisseau. Il s'agit tout simplement du brick Largus qui est en mission de repérage. Les 15 hommes n'ont plus du tout la force de pleurer, mais cette fois, ils sont sauvés. Vous imaginez l'émotion, on devrait dire la commotion qui va soulever l'opinion lorsque ces rescapés raconteront ce qu'ils ont vécu. Le capitaine du roi de Chaumaret, de sa part, est presque étonné d'un tel déchaînement. Le vieux marin vaincu accepte dignement d'être jugé par ses pairs. Alors on lui reproche non seulement l'échouage de la Méduse, mais les conditions de son évacuation et de son abandon, ainsi que, et surtout, l'abandon du radeau. Mais lui se défend et... est-ce sincère ? Fin de ne pas comprendre. Une cour spéciale se réunit en mars 1817 sur un vaisseau amiral mouillé en rade de Rochefort, la même d'où 9 mois plus tôt partait vaillamment la petite flottille. La sentence est sévère, elle est néanmoins, je crois, équilibrée. Chaumaret est dégradé, privé de ses décorations, rayé des cadres de la marine et condamné à 3 années d'emprisonnement qu'il s'en ira effectuer au fort de Ham. C'est un homme perdu, c'est un homme dont la réputation est perdue, c'est un homme dont la famille finira par se perdre. Son propre fils ira jusqu'à se suicider. De tout ça, il nous reste aujourd'hui évidemment le chef-d'œuvre de Géricault, qui a été peint dans un climat d'indignation générale. La grande toile est exposée au salon de 1819 au Louvre. Elle s'y trouve toujours. Et dans un instant, en compagnie de mon invité Éric Amptaz, nous allons faire tout notre possible pour répondre aux nombreuses questions qui à ce jour restent en suspens à propos de ce naufrage de la Méduse et à propos du redoutable, du terrible drame, de la tragédie des naufragés du radeau.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nouvel et dernier extrait du vaisseau fantôme de Richard Wagner pour accueillir votre invité Franck sur Europe 1, Éric Amptaz, rédacteur en chef au Canard Enchaîné et auteur de La Malédiction de la Méduse chez Grasset.
C'est un roman, Éric Amptaz, que vous avez écrit, mais un roman très, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est très documenté. On suit à travers la relation d'un naufragé chaque minute de cet affreux, de ce drame.
Oui, c'est-à-dire c'est un roman, bien sûr. Il fait un peu de, j'ai utilisé un peu la licence romanesque, mais je me suis basé sur des faits extrêmement précis, sur une documentation très fournie. Mais je voudrais d'abord, si je puis me permettre, noircir un peu le tableau, parce que dans votre récit, bon, la fatalité est là, et la fatalité à bon dos, mais il y a aussi une dimension de ce commandant de Choumaret qu'on a peut-être pas donné, c'est que ce monsieur était assez porté sur la bouteille. Outre le fait qu'il n'ait pas navigué depuis 25 ans et qu'il ait des problèmes avec les jeunes officiers à bord, parce que là, il faut peut-être préciser que du roi de Choumaret est ce qu'on appelait à l'époque un rentrant. C'est-à-dire un rentrant, c'était,
il revenait
donc,
avec,
voilà, c'était
avec les
officiers
frères de Louis XVI,
qui étaient
allés
en Angleterre et qui étaient revenus et qui, par un décret pris en 1815, bénéficiaient d'un grade militaire supérieur à celui qui était le leur avant leur départ. Donc, il s'est retrouvé bombardé commandant, alors qu'il avait le niveau
plus l'expérience, en fait.
Voilà, et en plus, il avait une très petite expérience de la navigation, qu'il a essayé un petit peu d'améliorer.
Et on ne peut pas dire que l'équipage l'ait tellement aidé, puisqu'au contraire, on s'amusait de ses erreurs et on le poussait dans sa nullité.
Il y a une autre chose qu'il est utile de préciser, en fait, selon plusieurs documents qui ont été recoupés, au moment de l'échouement, ce n'est pas lui qui était aux commandes, mais un de ses amis rentrant lui aussi, et qui lui était plutôt porté sur la régate. Ce qui fait que quand ils se sont trompés en confondant le cap blanc avec un nuage, l'autre fonçait et n'a pas tenu compte absolument des signaux et a abandonné absolument.
Quand vous dites
tout
un
le
ami,
reste.
Ça n'était même pas un officier de marine en l'occurrence.
Non, c'était
ça qui
pas
est
un officier de marine, c'était un membre de l'expédition à qui il avait confié la barre.
Oui, il y avait quand même un très grand amateurisme dans tout ça,
oui, total,
un climat
total,
politique
total, et
épouvantable.
Tout ça servi quand même par un alcoolisme assez important.
Puisque vous attaquez d'emblée Éric Amptaz, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a d'une part les circonstances du naufrage lui-même.
Absolument.
Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Choumaret, son organisation, une part de son équipage sont vraiment responsables, ont été vraiment d'une nullité presque drôle d'ailleurs, puisque vraiment c'est ce qu'on appelle de la mauvaise navigation. Mais au-delà du naufrage de la frégate, il y a les opérations de sauvetage qui, elles, obéissent à un certain nombre de préjugés de l'époque, évidemment des préjugés sociaux notamment, mais qui ont des conséquences épouvantables, puisqu'on conduit, on envoie à la mort des dizaines de personnes.
Des dizaines de personnes, mais
presque, j'allais dire de gaieté de cœur, évidemment pas, mais en tout cas sans trop d'état d'âme.
De gaieté de cœur, non, mais si vous voulez, on peut... Donc, il faut, vous avez expliqué que les embarcations de sauvetage étaient reliées entre elles de façon à remorquer le radeau. Et la dernière embarcation qui était avant le radeau était l'embarcation, ce qu'on appelait la chaloupe du gouverneur, qui amenait le gouverneur qui s'appelait Schmalz, qui était le futur gouverneur du Sénégal, ainsi que sa famille, ses domestiques. Or, Schmalz, futur gouverneur, a fait une correspondance au roi, à Louis XVIII, pour expliquer la façon dont le radeau avait été abandonné. Parce qu'il y a eu à l'époque polémique sur la façon dont la mare s'est rompue. Est-ce qu'elle a volontairement été rompue ou est-ce que c'est accidentel?
Est-ce que c'est une mauvaise compréhension des ordres? En tout cas, moi, c'est la thèse que
oui,
j'ai
voilà.
retenue.
Alors, il y a eu la mauvaise compréhension des ordres, mais on a aussi dit à un moment, le radeau ralentissant beaucoup la marche, on l'a largué en pleine mer. Et je vais donner lecture de cette correspondance, c'est très court. Donc, il explique donc qu'il essaie, que la mare a rompu et qu'il essaye de récupérer la mare. Et il dit « En s'en approchant pour la reprendre, on s'exposait à ce que les malheureux qu'il portait se jetassent en foule dans les embarcations déjà surchargées et qui auraient été irrémédiablement submergées sans pouvoir contribuer au salut des hommes qu'on aurait été tenté de secourir. »
On a donc fait la part du feu, ou plus exactement la part de l'eau en l'occurrence.
La part de l'eau, et alors il a encore une autre formule qui est assez définitive. On se vit donc dans la nécessité de l'abandonner pour éviter une perte générale.
C'est terrible. Voilà. Ce qu'on ne voulait pas perdre, en tout cas, c'était le trésor de guerre, en quelque sorte, puisque lorsque l'Argus est envoyé en mission de repérage, la principale mission qu'on lui confie n'est pas de sauver les âmes qui pourraient l'être, mais bien de récupérer les 90 000 francs.
Absolument, parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que en arrivant à Saint-Louis du Sénégal et en arrivant à terre, aucun des membres d'équipage, ni d'ailleurs ni le commandant, ni le staff, ne font part de l'abandon du radeau. C'est-à-dire, ils ont déjà été passés par pertes et profits et personne ne songe à les rechercher puisqu'ils n'existent plus.
Oui, c'est ça. Ils sont déjà considérés comme perdus, en fait. Voilà. Il y aura quelques réfugiés, très peu nombreux. Quelles ont été les conditions de vie sur ce radeau? Que peut-on savoir des atrocités qui, forcément, s'y sont commises? C'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
En compagnie d'Éric Amptaz, rédacteur en chef au Canard Enchaîné, et qui est donc l'auteur de cet ouvrage, paru chez Grasset il y a quelques années maintenant, c'était en 2005, on peut toujours le trouver.
Oui, absolument.
Ça s'appelle La malédiction de la méduse. Et le livre a d'ailleurs été, le roman a été couronné par un prix décerné par la Marine nationale, Éric Amptaz.
La Marine nationale, oui, ce qui, bon, ce n'est peut-être pas un fait d'armes qui était à mettre à l'honneur de la Marine nationale, mais justement.
La Royale, comme on l'appelle.
La Royale a considéré que le commandant de Chaumarez était un peu un usurpateur et qu'il était l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, ils ont considéré que cette histoire pouvait...
On peut dire qu'il a été un peu lâché par les siens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la marine n'a pas fait grand-chose pour le soutenir au moment du procès de Rochefort,
non, du reste. Non. C'est d'ailleurs la marine qui l'a jugé. Hein. Mm-hmm. C'est la marine qui l'a jugé. C'était un tribunal militaire.
Oui, on peut dire quand même que, toute proportion gardée, étant donné l'épouvante que nous venons de décrire, justice a été faite sur cette affaire,
oui,
globalement. Nous parlerons tout à l'heure de d'autres ouvrages qui sont publiés sur le sujet. C'est un sujet qui continue de faire parler, lui, le radeau de la Méduse, notamment grâce à la somptueuse toile de Géricault. Je dis somptueuse, elle est très impressionnante, elle a hanté l'imaginaire de générations d'enfants, notamment quand on allait visiter le Louvre. Étant petit, on veut voir le radeau de la Méduse. Il faut dire quand même que les coloris sont pas très gracieux. Hein. Les coloris sont très sombres. Oui, c'est ça.
D'ailleurs, à ce propos, il y a des faits qui sont avérés, c'est que Géricault, pour peindre ce tableau, pour avoir justement ces teintes sombres, a utilisé beaucoup de goudron dans ces teintes. Or, le goudron a des qualités, puisqu'il permet d'accentuer ces teintes, mais il a aussi quelques défauts, c'est-à-dire qu'il ronge la toile. Et donc, on peut, si on est dans la métaphore, car ce tableau a permis beaucoup de métaphores, on peut imaginer que le tableau se ronge aujourd'hui, c'est-à-dire se nourrit de lui-même, comme les naufragés l'ont fait à bord du radeau en se nourrissant d'eux-mêmes également.
C'est le tableau lui-même qui vous a inspiré? C'est ça qui vous a donné envie d'écrire sur le radeau de la Méduse?
Ce qui m'a donné envie d'écrire sur le radeau de la Méduse, c'est qu'en fait, tout le monde connaît le tableau et beaucoup de gens ignorent l'histoire. Moi, je l'ignorais totalement. Et quand j'ai découvert ce qu'il en était, j'ai fait le test autour de moi et 9 personnes sur 10 ne connaissaient pas l'histoire. Je me suis dit, il est peut-être utile de la raconter.
Alors, pour réaliser sa toile, qui lui a demandé quand même presque un an de travail, hein, c'est un des chefs-d'œuvre.
Plus d'un an. Il s'est enfermé complètement pendant un an.
Géricault, dont on parle, bien sûr.
S'est enfermé dans son atelier, a fait un travail d'esquisse très important, et il y a eu toute une évolution du tableau, parce que la première idée du tableau qu'il en avait était celle presque d'une peinture de faits divers, presque un instantané. C'est-à-dire, il avait envie de représenter ces scènes d'anthropophagie, ces bagarres. Parce qu'il faut le préciser aussi, il y a eu beaucoup de bagarres sur le radeau. La deuxième nuit, il y a eu 60 morts. Ouais, 60 morts pour une raison simple, c'est qu'on avait balancé, au départ, pour alléger le bateau, on avait balancé les provisions d'eau, les provisions de nourriture aussi, et il n'avait que du vin. Et le vin a un petit peu échauffé les esprits, le vin puis la peur, et avait facilité...
Le vin, la peur, le soleil, voilà. En fait, le désespoir de cet espace plus que confiné, perdu dans un désert hostile. On peut comprendre que les gens perdent la raison aussi.
Absolument, les gens perdent la raison. Donc, Géricault était parti là-dessus, et petit à petit, il est allé vers un tableau beaucoup moins figuratif et beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire, le bateau, l'Argus, sur les premières versions, était très gros. C'est-à-dire, on voyait l'Argus tout près du radeau, et petit à petit, il n'est devenu qu'un point sur l'horizon, représentant l'espoir.
Sur la couverture de votre livre, c'est vraiment ça. Minuscule.
C'est ce petit point, c'est-à-dire beaucoup de gens qui voient le tableau, qui regardent ce tableau très sombre, ne voient même pas ce point-là.
Le point, cette voile, on se demande
si
ce
vous allez aujourd'hui le voir au Louvre, essayez de repérer ce petit point,
cette petite voile
qui est la voile de l'Argus et la voile de l'espoir. savoir.
Alors, et vous l'avez bien fait sentir, Éric Ambetaz, si on parle encore autant de cette affaire après tant de temps, c'est presque deux siècles, ce sera bientôt le bicentenaire de cette terrible affaire, c'est parce que il y a eu des scènes d'anthropophagie. Je pense que c'est ce qui a marqué l'imaginaire, bien entendu. Les gens se sont entre-dévorés. Voilà ce que nous raconte la relation d'Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, qui étaient donc des rescapés de la Méduse. Les infortunés que la mer avait épargnés dans la nuit désastreuse que nous venons de décrire se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, dit-il, les coupèrent par tranches et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Beaucoup néanmoins n'y touchèrent pas. Presque tous les officiers furent de ce nombre. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient envoyée, on proposa de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût.
Oui. Ils avaient même un mot très délicat pour qualifier les morceaux de viande. Ils disaient « les chairs ». Nous avons goûté les chairs.
Oui. Donc on est allé quand même très loin. Est-ce que c'était indispensable recourir à l'anthropophagie pour survivre ?
C'est là une vraie question, parce qu'en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, l'errance du radeau a duré 12 jours. Donc 12 jours avec du vin, ils avaient au début quelques morceaux de biscuits, plus ce qu'ils ont mangé à droite ou à gauche, y compris des morceaux de ceinturon. Il n'y avait pas encore nécessité physiologique de se nourrir, mais... C'était pour eux, bon, ils étaient quand même très tenaillés par la faim, et puis ils avaient surtout, il faut imaginer la situation, d'être sur ce radeau perdu en pleine mer sous un cagnard d'enfer avec de l'eau jusqu'aux genoux. Ils n'avaient absolument plus d'espoir, et certains avaient une espèce d'envie de vivre incroyable et sont allés jusqu'à ces extrémités parce qu'ils voulaient survivre.
Éric Ambetaz, La malédiction de la Méduse, c'est donc édité chez Grasset. Écrit Charlotte, journal d'une rescapée de la Méduse. Ça, c'est par Dorothée Koechlin de Bismont, qui a donc, elle aussi, repris un certain nombre de témoignages. Le naufrage de la Méduse, parole de rescapée, avec une préface de Théodore Monod. Après tout, la mer peut être aussi un désert, n'est-ce pas? C'est un recueil de Michel Agnier.
Michel Agnier qui a fait un travail
dans
de moine sur
L'encre de marine, oui, là,
c'est
vraiment
un
travail très fouillé. Et puis bien sûr, la relation d'Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, Le naufrage de la Méduse, qui est paru en poche chez Folio. Merci Éric Ambetaz d'avoir levé un coin du voile sur cette page pas très reluisante d'une histoire malheureusement tout à fait réelle.